Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous nos auditeurs et nous sommes heureux de nous retrouver pour l'étude d'un sujet qui est véritablement d'une grande importance pour les hommes. Eh bien, c'est tout simplement le propos du bonheur. Je vous propose, pour situer notre méditation, eh bien, une lecture dans le psaume 4 et au verset 7. Et nous savons que, de près le souscripteur, eh bien, c'est David qui en est l'auteur. Et nous avons ces paroles. Il est dit ceci, « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ?» C'est une prière. « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors nous allons, eh bien, en effet, porter notre attention sur le titre que j' 'ai donné à cette réflexion, le bonheur, mythe ou réalité. Il y a une angoissante question, c'est celle-ci, qui nous fera voir le bonheur ? S'interroger certainement les concitoyens ou les contemporains, eh bien, de David, et la recherche du bonheur. L'humanité n'a jamais cessé d'espérer au bonheur et de tout temps, d'améliorer ses conditions d'existence. Premièrement, sur le plan matériel, jamais notre monde n'a été aussi, dans nos pays occidentaux, eh bien, aussi favorisé sur le plan de la vie matérielle. Et nous voyons qu'il y a là, derrière tout ça, eh bien, une évolution de la vie, pour la pratique, finalement, eh bien, de l'existence. L'homme a appris à maîtriser la nature et son environnement pour son bien-être et son confort. Ça, nous le savons et nous en profitons. Et peut-être, en effet, eh bien, le développement de ce confort ne s'arrête pas. Le deuxième point, c'est véritablement, eh bien, des conditions morales. C'est la réalisation des grandes pensées qui font de l'homme un être supérieur. Alors nous avons naturellement, eh bien, notre slogan qui est le nôtre en France, « Liberté, égalité, fraternité ». Pour ce bonheur-là, on est prêt à sacrifier sa vie. À travers, eh bien là, les révolutions, on sait ce qu'il en est, l'affranchissement de la tyrannie, et nous savons que tout cela, eh bien, est quelque chose qui caractérise tout simplement, eh bien, le fonctionnement, le régime dans lequel nous vivons ici, précisément en France. Alors, dans notre siècle d'abondance, où chacun pense comme il veut et ce qu'il veut, la même question se pose, qui nous fera voir le bonheur ? Il y a 2800 ans du temps de David, parce qu'il a écrit naturellement ces choses, d'accord, mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Il n'y avait-il pas de grandes illusions quant au bonheur du temps de David ? Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Ne manquerait-il pas une dimension à notre société d'aujourd'hui ? Pourtant, eh bien, nous avons ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est du pessimisme ? Est-ce que c'est du réalisme ? Alors, nous allons porter un regard sur le monde à travers, eh bien, toutes ces afflictions. Nous parlons de dépression, de tension, d'angoisse, de drogue, d'alcoolisme, de séparation des familles, des couples, les suicides également qui sont nombreux. Est-ce que tout cela est une preuve de bonheur ? Et c'était plutôt un constat de misère. Alors les fléaux modernes, les phénomènes de société et l'incapacité à sortir de l'ornière. Pourtant, les hommes déploient, tant sur le plan scientifique, sur le plan de leur technologie, de toutes sortes de choses semblables, eh bien, ils déploient véritablement beaucoup d'énergie et beaucoup de pensées. L'homme retombe toujours plus lourdement dans ses atavismes et dans sa misère. On entend les gens se plaindre, les gens gémir, parfois agressifs, toujours négatifs, jamais heureux, jamais satisfaits. Le besoin immense de bonheur devrait inspirer au gouvernement l'institution d'un ministère du bonheur. Alors existe-t-il ? Nous ne savons pas, mais toujours est-il que les choses sont faites pour véritablement donner de meilleures conditions de vie aux sociétés, aux générations qui se succèdent. La réalité n'est que trop vraie. Le monde de l'homme ne connaît pas le bonheur, encore moins où on peut le trouver. Alors il le cherche. La grande tentation de cette réalité dramatique est particulièrement soulignée à travers les philosophies utopistes. Et nous voyons que de plus en plus, les hommes pratiquent la tactique de l'autruche, mettent la tête dans le sable pour ne pas voir les réalités ou tout ce qui peut arriver, survenir dans notre monde. Et on espère à l'âge d'or, plus de guerre, plus de maladies, plus la mort, illusion et fiction. Et nous croyons que le monde d'aujourd'hui court après un mirage. Continuons l'analyse en profondeur. Le bonheur, c'est quoi ? Faisons parler les jeunes, une vie pleine de promesses, parce que c'est la jeunesse, parce que c'est le début de la vie. Le bonheur est dans l'avenir, peut-on dire. Mais l'avenir, quelle incertitude aujourd'hui et ce que sera demain ? Aller de l'avant. Mais où ? Comment ? Pourquoi ? Et pourquoi faire ? Heureux, alors est-ce que c'est un mot qui est propre à la jeunesse ? Désinvolte, sans confiance, désabusé. Il y a ensuite, après les jeunes, il y a les adultes. C'est l'âge du milieu, c'est l'âge de la réussite, c'est l'âge où véritablement l'homme s'accomplit. Le bonheur est dans le présent sans être forcément heureux, épanoui. Alors, l'âge où l'on s'investit, c'est-à-dire l'âge du milieu, les grandes réalisations, on a les moyens, on goûte à tout, on possède tout, et hélas, on en veut toujours davantage. Est-ce que les hommes, les adultes, ceux qui sont dans la plénitude de la vie, sont-ils heureux ? Et puis il y a un troisième aspect des choses, les jeunes, les adultes, les personnes âgées. Le bonheur est dans le prêt. Le bonheur est dans le passé. C'était hier. La vie a l'heure des bilans. Souvent, une déception. Ils vivent dans la déception et ils disent ou ils se disent « si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, mon ménage, hélas, mes enfants, que sont-ils devenus ? Les vraies valeurs, est-ce que les personnes âgées sont-ils heureux ?» Alors la question se pose tout à nouveau, qui nous fera voir le bonheur ? Et on insiste, la question reste posée. Sans Dieu, le bonheur est une véritable chimère, c'est-à-dire on peut tout simplement le traduire par vanité, peut-être même un rêve. Pour certains, c'est un cauchemar. Pour certains, le bonheur revêt une signification bien précise. Il évoque, et à juste titre, la santé. Malade, si j'étais en bonne santé, je serais enfin, si finalement, quelque part, les choses m'étaient données de pouvoir vivre comme tout le monde. Ensuite, il y a les affections. Aimer et être aimé. Alors on cherche désespérément le partenaire idéal. Et que d'écueils dans ce domaine. Et que de drames. Nous avons un exemple formidable qui nous est donné par Jésus dans un exemple, c'est l'histoire de la Samaritaine. Je vous recommande de relire cette aventure de cette femme samaritaine qui cherchait dans l'amour, qui cherchait dans l'affection, véritablement, ce qu'elle a toujours appelé de ses voeux. Ensuite, il y a les possessions matérielles. Être quelqu'un, c'est en effet devenir quelqu'un, c'est avoir de l'argent, c'est de posséder les honneurs, ce sont finalement les talents que nous espérons, les pouvoirs ou le pouvoir. Et nous avons aussi encore un autre exemple, c'est l'histoire de l'homme insensé et riche qui va amasser une fortune et qui véritablement, là lui-même, où il est en train de faire le compte, le bilan de sa fortune, va mourir, tout simplement, subitement. Alors à quoi cela sert-il ? Pour d'autres encore, le bonheur, c'est un paradis artificiel, les vanités de l'imagination, les recettes pour être heureux. Alors il y en a, ça se démultiplie à l'infini. C'est le bonheur à bon marché, les passions fortes, les aventures, où l'on s'étourdit pour oublier la réalité, quelquefois difficile, de l'existence. Pour certains, c'est la chance. l'horoscope, la bonne étoile, tout cela, c'est l'univers des convoitises trompeuses qui aboutissent immanquablement à l'amertume, le désespoir, et tout cela finit par le vide et la tristesse. Ce sont les lendemains qui déchantent. Et puis, il y a les victimes de la crédulité, victimes de l'adversaire du grand marionnettiste que l'on peut appeler également le menteur. Alors c'est le miroir aux alouettes. On espère, on est attiré parce que ça brille, parce que véritablement il y a là un appel très fort de convoitise, puis finalement il n'y a rien du tout. N'y a-t-il aucune consolation? Et c'est pour ça que nous reposons encore la question, que David repose la question, que lorsqu'il entend ses contemporains qui lui disent, qui lui demandent, qui nous fera voir le bonheur? Savez-vous que Dieu a un grand respect des besoins de bonheur de ses créatures? Dieu veut que nous soyons heureux. Il le veut, il le désire, il a préparé les choses pour que nous le soyons. Faut-il le vouloir nous-mêmes? Alors Jésus pleure à un moment donné lorsqu'il arrive. Eh bien, sur la ville de Jérusalem, juste avant sa crucifixion, il dira ceci. « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes? Si toi aussi, tu connaissais les choses qui appartiennent à ton bonheur, mais tu ne l'as pas voulu. » Voilà, il s'agit tout simplement de vouloir le bonheur, de chercher le bonheur, mais on ne le cherche pas auprès de n'importe quoi et auprès de n'importe qui. Combien de fois Dieu a-t-il tenté de te parler? Personnellement, c'est une interpellation pour ceux qui écoutent ce message. Combien de fois Dieu a voulu te signaler qu'il avait quelque chose de bon pour toi? Si tu connaissais le bonheur de me connaître, c'est peut-être le résumé de ce que nous pouvons dire de ces dernières paroles. Le seul vrai bonheur vient de Dieu. Il n'est pas fait seulement de la dimension matérielle ou morale de la vie. Il faut découvrir l'aspect méconnu de la vie spirituelle. Et je souligne finalement ce dernier mot, la vie spirituelle qui commence par la confiance, la rencontre et l'expérience de Jésus ou avec Jésus. Vie nouvelle. Nouvelle naissance. Et Jésus proclamera dans son temps, il dira à une foule qui était rassemblée autour de lui et qu'il sentait véritablement, qu'il pressentait qu'elle était profondément malheureuse, il dira « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos pour vos âmes. » Mais pourquoi l'homme ne trouve-t-il pas ce bonheur? Voilà la question. Le prophète Jérémie dit ceci « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Le grand drame de l'humanité livrée à elle-même, c'est de méconnaître, c'est d'ignorer, ou d'indifférer plutôt, celui qui est l'auteur et la source de tout vrai bonheur. Son péché de l'homme, le péché de l'homme, c'est d'évincer Dieu de sa vie, de ses joies, le rendre responsable au jour du malheur, comme cela est dit, au jour du bonheur, c'est la parole de Dieu qui le précise, au jour du bonheur, réjouis-toi, c'est-à-dire bénis Dieu du bonheur que tu as. Au jour du malheur, réfléchis, approche-toi de Dieu et pose-toi les vraies questions. Mais, comme nous l'avons lu par rapport à Jérusalem, mais pour Israël, qui cherchait son bonheur désespérément, mais tu ne l'as pas voulu, tu ne l'as pas désiré, tu ne l'as pas, finalement, tu n'y as pas aspiré. Car il est des bonheurs qui ne sont pas de nature à plaire à Dieu. C'est ce qu'on appelle le mal, le péché, toutes sortes de dépravations, toutes sortes d'habitudes qui sont délétères. Le choix de la médiocrité reste préférable pour le monde aujourd'hui encore. Pourtant, le meilleur se trouve en Dieu. Moi qui suis une source d'eau vive, image d'un bonheur perpétuel et renouvelé, source qui ne dépend pas des conditions extérieures de la vie, mais d'une source profonde intérieure, c'est-à-dire notre cœur, notre âme et notre esprit, cet être avant de posséder, avant l'avoir. Le bonheur que le monde se donne ressemble à des certaines crevassées qui ne retiennent pas l'eau et qui ne durent pas, qui s'envolent, qui finalement s'évaporent et disparaissent. Et c'est quelque chose finalement de très fugace. Alors tout cela est suivi de regrets, de remords, de nostalgie sentimentale peut-être, affective, et le bonheur est véritablement fugitif. La conclusion que nous pouvons en tirer serait la suivante, quand Jésus nous dit cette parole, « Je suis la porte Moi, je précise, je suis la porte de la vie. Je suis la porte du bonheur. Je suis la porte, finalement, de tout bien-être. Si quelqu'un entre par moi, dira Jésus, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entrera et il sortira. C'est-à-dire qu'il va bénéficier, parce que c'est Dieu qui donne, de la vraie liberté. Quand on est sous l'atavisme de toutes sortes de mauvais sentiments, de différentes choses qui sont mauvaises profondément, eh bien on ne peut pas avoir la liberté. Il nous est dit que « moi je vous donnerai la liberté et la liberté vous affranchira ». Alors il entrera, il sortira, il aura la liberté et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire un rassasiement intérieur, et il aura la vie, c'est-à-dire l'épanouissement, et il sera dans l'abondance. N'est-ce pas là les composants du vrai bonheur, c'est-à-dire nous sommes appelés à une vie de plénitude. Dernière fois, nous pouvons citer ce mot, ce cri, cette aspiration profonde des hommes, qui nous fera voir le bonheur? L'homme ici-bas n'en a que l'illusion, parce que finalement, souvent les choses que nous voyons sont illusoires. Mais voir n'est pas forcément avoir et posséder, comme nous l'avons dit il y a un instant. Jésus est le seul qui non seulement fait apparaître le bonheur aux yeux des hommes, mais il le donne réellement. Et nous avons cette dernière parole sur laquelle je conclurai notre réflexion. « Oh, si tu étais attentif !» Il nous parle, il vous parle à chacun. Il a parlé dans les temps et les générations. « Oh, si tu étais attentif !» L'attention à mes commandements, dit Dieu, ton bien-être serait comme un fleuve, ton bonheur serait comme le flot de la mer. Qu'y a-t-il de plus impérieux et bénéfique qu'un fleuve qui arrose tout sur son passage, ou tout simplement la mer, qui s'étend profondément et largement? Alors, sois attentif, ton bien-être, ton bonheur en dépendent, et nous dépendons les uns et les autres de Jésus, et de la confiance que nous pouvons mettre en lui. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et pour tous ceux qui sont en pénurie, tous ceux qui sont finalement quelque part dans une vie qui est en jachère, il n'y a plus rien de pousse, il n'y a plus de production, il n'y a plus d'épanouissement. Alors sachez une chose, que c'est Jésus qui donne le vrai bonheur. Si tu veux véritablement le bonheur, ouvre ton cœur à Jésus, parle-lui, donne-lui finalement toutes les choses dont tu as besoin de lui confier. Alors à ce moment-là, lui, il va t'ouvrir les portes du bonheur, une vie de bonheur, parce que nous savons que tout cela apporte la paix intérieure et le repos de nos âmes, de nos pensées, de notre conscience. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour d'autres messages qui ne peuvent que nous faire du bien, parce que c'est Dieu qui véritablement nous conduit et nous dirige. Merci et à bientôt.